Globule Radio et la ville de Chamonix-Mont-Blanc présentent Montagne et compagnie. En partenariat avec la compagnie des guides de Chamonix.
Montagne et compagnie.
Le paysage appartient à celui qui le regarde. Pratiquant ou non pratiquant, levons les yeux et contemplons les cimes.
Épisode 6. La Loria.
Enchanté. Bon chaud là. C'est une ville d'agriculteurs, donc il y a des odeurs, vous affolez pas.
Avec Luc Dunan, 93 ans.
On va chez Luc, on prend la voiture.
Ancien paysan, maçon, mais aussi artisan de Valorcine.
Il y a une spécificité, c'est d'avoir un mur paravalant derrière, parce que c'est un village qui a été détruit dans les années 1700 et qui a été reconstruit plusieurs fois. Moi, j'ai donc ma ferme ici, où j'avais avant, mon papa avait des moutons, moi, je n'aimais pas les moutons. Ensuite, j'ai pris des vaches, des Reims, et je complète maintenant avec des chèvres, et avec, donc avec la fabrication de fromage. Et puis, lui, il habite là-haut. Et Luc, donc, oui, ben, c'est le doyen du village. C'est là-dessus, la plage de Loria, donc ça se voit pas depuis là. C'est pour ça qu'on le voit pas, c'est pour ça que c'est un peu mystérieux, quoi. Et puis les perrons, alors qu'on voit les perrons, là-bas à droite. Donc quand on fait la traversée des perrons, c'est toute cette arête, là-bas. Ça pourrait même se faire en hiver, maintenant. Voilà.
Et Patrick Ancet, guide à la compagnie des guides de Chamonix, éleveur et ancien maire de Valorcine.
L'alpage de Loria, on le voit très bien depuis le col des Montées. Quand vous arrivez au col des Montées, c'est juste en face de vous. Quand on vient de Valorcine, on la découvre en sortant de la forêt, on part soit du Coutray, soit depuis le Ciseret chez nous. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que tous les chemins qu'il y a en montagne maintenant, c'est des chemins qui ont été creusés à la main par les gens qui montaient les vaches en alpage. Et donc, quand vous montez et vous sortez de la forêt, au fur et à mesure, vous découvrez l'alpage. Alors, vous arrivez les premières fleurs, puis après, tout d'un coup, vous voyez les écuries qui sortent. Et c'est ce qui est un petit peu magique, et c'est pour ça qu'on aime bien monter là-haut, quoi.
C'était la montagne des ancêtres, déjà. Ça a toujours fait partie de la vie de Valorcine. Parce que les vaches, on ne pouvait pas les garder en bas, en plein été. Donc, il fallait bien les mettre quelque part. Donc, la montagne de Loria, c'est une montagne communale. C'est grand, c'est un alpage communal. 220, je crois, d'hectares.
Et après, ce qu'il y a typique dans l'alpage, c'est la manière dont les chalets sont contigus les uns à côté des autres. Ça fait donc comme tous des petits toits. Et avec ce que la chavanne, donc le ski où les bergers dormaient et fabriquaient le fromage, qui est un bâtiment un peu plus conséquent, qui a été transformé en refuge maintenant. En fait, le problème de l'alpage de Loria, on ne voit pas depuis le Ciseret, parce que c'est un plateau qui est au sommet de la forêt. Un plateau qui est à l'altitude entre 1008 et 2002, où les vaches vont en champ. Puis après, plus haut derrière, ça monte jusqu'à 2007-2008. À gauche de l'alpage, il y a les cornes et l'aiguille de Loria, avec une arête. Après, une arête qui va jusqu'au perron, et les perrons, ça a une forme un peu comme une crête de coq, qui est une belle chaîne. Et où il y a des très belles courses de rochers, très belles voies. Il y a une course qui est réputée maintenant, c'est la traversée des perrons, justement. Il y a du très bon gneiss. Vous avez des voies de 7-8 longueurs, difficulté moyenne à difficulté extrêmement difficile, parce que maintenant, avec l'évolution des perceuses, ils ont mis des plaquettes un peu partout. Il y a des voies, moi, que je ne fréquente pas parce que je ne suis plus dans le coup, moi, c'est un peu âgé. Il y a des voies en 7A, 7B, c'est en plus, quoi. Mais la traversée reste accessible à beaucoup de monde et il y a justement une très jolie vue.
Comme montagne, elle est quand même escarpée. Il n'y a pas beaucoup de plats quand même là-haut. Oui. Au point de vue alpage, elle ne valait pas le côté balme. Mais pour la vue, c'était autre chose. Ben, on avait toute la vue sur la chaîne du Mont Blanc, les Alpes suisses. C'était joli là-haut. À l'époque, c'était tout enneigé dessus. Parce que c'est déjà 2007. Bien sûr qu'en dessus, c'était tout enneigé, il y avait même un lac encore. au début de l'été, quand c'est tout en fleurs, c'est joli. Les lys, vous savez, les grandes fleurs blanches, le lys, c'est joli. Après, au mois d'août, ça vient jaune quand même, déjà. Mais le juillet, c'était joli.
Montagne et compagnie.
Juillet 1952. Marcel Vouillot, qui m'emmène faire les perrons en traversée, m'a promis un rocher solide qui offre des prises sûres, un parcours aérien et une vue magnifique. De très bonne heure ce matin, nous avançons tous les deux sur le chemin qui conduit à l'alpage de Loria. Les bêtes ne sont pas encore montées pour l'inalpage. Aussi la prairie, sous les chalets, déploie-t-elle le beau vert d'une herbe neuve et drue que les fleurs rehaussent de vives couleurs. Bleu des gentianes, violet des pensées de montagne, blanc des lys des Alpes et de la linaigrette, ou herbe à coton, jaune de l'anémone soufrée. Sur les rochers alentours, les bouquets rouges des rhododendrons. Nous prenons le temps de contempler l'exubérance de ce petit coin de nature, où les fleurs du printemps donnent la main à celles de l'été en un raccourci saisissant de la flore alpine. Nous repartons en longeant les chalets d'alpage des moutons en direction des perrons. Nous voilà au pied du rocher que Marcel palpe avec douceur. On dirait une caresse, une salutation, un bonjour de retrouvailles. Je fais l'ascension sans peine et je suis surpris de me trouver en haut sur la crête. Il fait un temps magnifique. Nous casse-croûtons de bon appétit en savourant cette heure de plein accord, d'union avec la montagne. Traversée sans problème. La matinée est déjà avancée quand nous rejoignons le sentier qui mène à Barberine. Nous marchons dans la forêt, où se mêlent feuillus, sapins et mélèzes. Un panachage de vers et de senteurs. Tout à coup, Marcel stoppe, se baisse sans un mot, m'arrête d'un geste puis me désigne de l'autre main un point dans la forêt. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois rien. Jusqu'à ce que quelque chose bouge, une masse beige. Un chamois, une femelle plus exactement, suivie de ses deux petits qui broutent tranquillement l'herbe du sous-bois. Il se croit seul au monde. Surtout ne pas déranger une bête sauvage qui est à la pâture avec ses petits. À nous de patienter. Extrait de Carnet d'un curé de montagne, de Claude Châtelain, aux éditions La Fontaine de Siloé.
À la nôtre, alors, à Loria.
Alors, santé, alors. Santé, santé. À Loria, on va dire... Ça nous reste, on y tient toujours. Nous, on l'aime parce qu'on l'a vécu depuis tout petit. Dès qu'on pouvait marcher, on nous emmenait là-haut. C'est ça, on l'aime parce qu'elle est à nous. Elle fait partie de notre vie parce que chaque année, on mettait le bétail là-haut depuis début juillet jusqu'au mois de septembre. Puis après, on mettait le fumier l'automne, tout ça, on entretenait les ruisseaux. Ça faisait partie de notre vie, ça, là-haut. J'ai fait une saison là-haut complète, c'était à la fin de la guerre. J'aimais beaucoup la montagne de Loria. Et puis on y était tous attachés là-haut, ceux de les gens de Valorcine. Parce que c'était notre montagne, et puis les vaches, à ce moment-là, c'était le capital pour chaque famille. N'avait pas autre chose pour vivre. Ils vivaient que sur la production de fromage et de beurre. Et pendant la guerre, on était contents d'avoir ça. C'est plus pareil, on n'y a plus les bêtes, on n'y va plus, puis ça a changé aussi de destination maintenant. C'est plutôt plus que le touriste qui va là-haut maintenant. Ça a changé. Mais à l'époque, tous les gens de Valorcine se rassemblaient là-haut. La montée à l'alpage, c'est une fête. Chaque propriétaire de bêtes, ils étaient tous là-haut. On mangeait... En haut des bâtiments, là, sur les rochers, puis on attendait que la traite, c'était à 2h30, 3h de l'après-midi. Après, on descendait tous ensemble. On s'arrêtait à mi-chemin, il y avait les vieux qui chantaient. Albert Claret, on l'appelait Albert à Vincent. C'est un grand bonhomme. Ben, il chantait, lui. Il avait une belle voix. Puis il chantait beaucoup des chansons qu'ils avaient apprises à la guerre de 14.
Montagne et compagnie.
Ah ben, moi, c'est comme lui, de tout petit. Moi j'ai toujours aimé les vaches. D'ailleurs, je suis malheureusement le dernier guide de la vallée encore à avoir des vaches. Et je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, qu'on montait les vaches à Loria, comme disait Luc. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que l'alpage a dû fermer en 64. Mais c'était un vrai bonheur, quoi. On en est les derniers témoins de ça. Peut-être que ça va revenir par la force des choses, on ne sait pas. Mais c'était notre vie de valeur simple, parce que voilà, quoi. En haut, là-haut, on est vraiment bien, quoi. On se sent bien. On se sent bien dans notre peau de montagnard, c'est tout simplement. Voilà, on se sent chez nous. On se sent chez nous.
Moi, à l'aiguille de Loria, je suis jamais allé. J'ai traversé un bout, mais je suis jamais allé au bout. Les montagnes vues d'en bas, oui. Tous les jours, je la regarde quand même, oui. Je peux plus y aller, mais je la regarde quand même. C'est familier, j'aime ça. Je fais toujours un tour d'horizon quand je sors. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça.
Moi, l'idée de devenir guide, elle m'a pris quand j'étais au col de la Terrasse, avec donc mon père, Olivier, qui était des précurseurs pour la chasse au chamois à Valenciennes. Et depuis le col de la Terrasse, je devais avoir 17-18 ans, on regardait de l'autre côté Trélezot pour trouver des chamois. Et moi, je me tournais, je regardais l'aiguille du Tour, le Chardonnay et tout. Et je voyais les gens aux jumelles, là, je voyais la trace pour faire ça. Puis moi, je disais, mais moi, j'ai envie d'aller en face maintenant, j'ai envie de marcher en face. Et la première course de rocher, on a fait les perrons justement avec Denis Vincent, le voisin qui habite là, je me rappelle. Et on était dans le 4-5, et je crois que son père lui avait payé un guide pour faire des écoles d'escalade, mais moi je ne savais pas du tout grimper. Et on a attaqué, on a fait les perrons comme ça, cette fameuse course des perrons. C'est marrant, hein? Voilà. Tout a commencé là-bas, c'est vrai. Depuis Loria, le cœur. Tous mes clients sont très contents de venir avec moi à Loria. C'est un lieu qui est magique, quoi. Moi, je connais tous les passages de l'alpage de Loria, pour la terrasse, pour le perron, je connais presque tout par cœur. Donc, moi, je fais beaucoup initiation à la peau de phoque pour monter à Loria, avec quelqu'un qui sait bien descendre, il n'y a aucun souci. L'été, la course des perrons, la traversée des perrons, je fais beaucoup. J'y emmène même aussi l'automne. Des fois, il y a un de mes clients qui aime venir à la chasse avec moi. Et puis, la plus belle période, on se la garde, nous, c'est l'automne. Octobre, novembre, quand il n'y a pas grand monde, voilà, c'est... Il y a des couleurs avec un lever de soleil qui est toujours extraordinaire, quoi. Il y a des odeurs de fleurs, on va au Genépi, l'automne aussi, un peu après les eaux, des choses comme ça.
Moi, j'y trouve plus joli que la mer. La mer, par beau temps et par mauvais temps, vous avez tout vu. Tandis que la montagne, c'est autre chose, quoi. C'est toujours bien éclairé. Et puis plus on monte, plus c'est joli. J'ai jamais pu faire de la haute montagne, mais la montagne à vaches, j'ai toujours aimé ça. Parce que d'abord, on a plus d'air, on voit les choses en haut. Moi, j'y trouve joli, la montagne.
Le conseil du guide.
L'hiver comme l'été, il faut garer sa parking au hameau du Coutret, en dessus du Buet. Après, vous prenez donc le chemin forestier, il est plus joli que la piste, et vous faites une super randonnée. Et pour les gens qui débutent, alors soit ils mangent au refuge, soit ils couchent et redescendent le lendemain, soit après, ce qui est joli, vous allez vous coucher, puis le lendemain, vous traversez sous les perrons pour aller en direction du barrage des Maussons. Du barrage des Maussons, vous redescendez par le funiculaire, ou alors vous descendez par un chemin qui est un peu plus difficile, sous le barrage des Maussons, qui arrive à Barberine. Et puis après, comme course de rocher, les perrons, traverser des perrons, alors soit vous allez coucher au refuge, vous avez une heure pour monter au refuge, vous avez deux heures de marche d'approche le lendemain, vous faites la traversée, vous redescendez pareil. Soit si vous êtes un peu plus pressé, vous partez du barrage des Maussons, donc vous montez en voiture jusqu'au barrage des Maussons, il y a une heure de moins de marche d'approche, vous faites l'aller-retour et vous êtes en bas à 3 heures d'après-midi.
C'était Montagne et compagnie. Montagne et compagnie.
Un programme réalisé en partenariat avec la ville de Chamonix,
Montagne et Compagnie,
à l'occasion du bicentenaire de la création de la Compagnie des guides de Chamonix.
Production
Globule Radio.
Là où on est heureux, c'est le bonheur.